C'est parti. Alors, l'objectif, c'est de faire un focus sur ce qui se passe après le rendez-vous 5, finalement, puisque c'est souvent là que ça arrive, hein. Donc, je vous rappelle, rendez-vous 5, on démarre le rendez-vous 5 par l'ikigai. On enchaîne sur l'exploration des possibles en termes d'options, évolution en interne, évolution en externe, reconversion, entrepreneuriat, ne rien changer, enfin voilà. Et on arrive à la fin du rendez-vous 5 avec des pistes de travail en fait pour le bénéficiaire qui peut une, deux ou trois pistes à creuser pour la suite. Et donc dans ces pistes peuvent apparaître des dispositifs de reconversion formation. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont se retrouver à devoir se former, à devoir réapprendre un nouveau métier ou réapprendre de la ou acquérir de l'expertise par rapport à leur métier, hein. Il y a différentes formes de formation, hein. C'est la formation de reconversion ou la formation d'expertise, c'est-à-dire je sais pas, je suis comptable et je veux devenir gestionnaire de paye. Bon, ben, je change pas de milieu professionnel. C'est pas une reconversion, mais cela dit, il faut que j'aille acquérir les compétences d'un gestionnaire de paye. Audrey, est-ce que tu avais rencontré un CEP? Tu nous avais fait un compte rendu. Est-ce que tu veux en quelques minutes réinjecter peut-être un peu les grandes lignes de ce que tu avais dit le CEP ou...
Ouais, je veux bien.
Alors, CEP, pour les nouvelles qui arrivent, c'est le conseil en évolution professionnelle. Donc, un CEP, c'est une démarche qui est complètement gratuite, c'est-à-dire n'importe qui peut prendre un rendez-vous gratuit avec le CEP de son secteur. Donc, il y a des CEP chez Alapec. Et il y a des CEP, c'est Catalyse, hein, qui doit avoir
Il y a Catalyse
et
et puis un
CEPS.
autre.
Ouais.
CLP. Moi, c'est bien le
CFPS, ça.
CLPS.
Bref, en fait, si vous tapez sur Internet, si la personne tape sur Internet, rencontrer un CEP, elle va rentrer sa localisation géographique et on va
Elle va
l'adresser
le
au
rediriger,
CEP
ouais.
le plus proche de son domicile. Et c'est gratuit. Voilà, et donc c'est cette personne-là que Audrey avait rencontrée et voilà.
Ouais, en fait, justement pour alimenter un petit peu, enfin, je dirais, les ressources pour les bénéficiaires après le rendez-vous 4, 5, enfin voilà, quand on commence à parler transition professionnelle, j'avais, enfin, déjà, je voudrais dire que tout ce que je partage, je ne le partage pas en tant qu'experte du CEP, mais juste sur la veille que j'ai réalisée et ce que j'en ai appris et en quoi ça m'a été utile. Donc, si vous avez des éléments complémentaires et si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, ben, j'y répondrai, mais après, je ne m'estime pas experte. Experte en CEP, mais effectivement, voilà, mon objectif, c'était d'échanger avec un CEP pour bien comprendre quelle était leur mission et comment valoriser leur travail et leur apport, enfin, comment ils pouvaient être aussi ressources auprès de nos bénéficiaires. Donc, effectivement, comme l'a dit Sophie, ce que j'ai appris à travers cet entretien, la personne, c'est une CEP à Lamballe avec qui j'ai échangé. Donc elle m'a bien précisé que oui, c'était un dispositif d'État, voilà, c'était un mandat, enfin les CEP, enfin le programme de CEP était un mandat renouvelé tous les 4 ans. Là, il vient d'être renouvelé, donc c'est un programme qui va continuer à durer pour les 4 années à venir au moins. Donc c'est un accompagnement gratuit qui est proposé aux personnes qui sont en activité du droit privé ou aux travailleurs non salariés. Pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, finalement c'est leur conseiller Pôle emploi qui fait office, j'ai envie de dire, de CEP. Mais là c'est pour toutes les personnes en activité qui se posent des questions sur la reconversion ou l'évolution professionnelle. Et donc, comme l'a dit Sophie, vous pouvez, enfin, la personne peut taper, peut, peut aller via la plateforme CPF, elle peut trouver, enfin, il y a un accès aussi au CEP. Et sinon, il y a le site moncep.org, mon-cep.org, qui permet justement de retrouver les CEP les plus proches. Donc voilà, donc le dispositif de CEP, du CEP, c'est quelque chose qui est assez cadré. Et alors, il y a plusieurs façons d'aller contacter, enfin, il y a plusieurs cas de figure pour contacter un CEP. Par exemple, c'est quelqu'un qui a envie de se reconvertir, mais qui ne sait pas du tout vers quoi se tourner. Donc, potentiellement, il va prendre rendez-vous avec un CEP. Là, le CEP va faire un petit peu un diagnostic de la situation et de la demande. Et dans tous les cas, quand la personne souhaite se reconvertir, mais ne sait pas quoi faire, le CEP va lui suggérer de faire un bilan de compétences. Et donc, il va également lui expliquer, vous m'entendez?
Oui.
Oui, il va également lui expliquer la démarche, il va lui montrer la démarche pour comment s'inscrire à un bilan de compétences via la plateforme CPF. Et donc, en général, il partage deux, trois noms. Enfin, il recommande de rencontrer trois organismes pour faire le choix. Et alors là, c'était le fonctionnement de la personne avec qui j'ai échangé. Mais en l'occurrence, ce qu'elle fait, c'est que quand elle est avec son bénéficiaire, elle tape la localisation de où la personne veut faire son bilan de compétences. Et en général, si elle n'a pas des noms à proposer, c'est les trois premiers noms qui vont s'afficher sur la plateforme CPF qui, quelque part, font foi. Donc, vous pouvez, par curiosité, regardez comment vous êtes placé. Donc, si vous n'êtes pas reconnu par des CEP autour de vous, bah, si vous êtes dans la première page, c'est bien. Mais peut-être que si ce n'est pas le cas, de vous faire connaître
Oui, auprès des
pour
CEP de
être
votre
un.
secteur.
Ouais, c'est ça. Voilà, pour que vous puissiez être identifié comme organisme et peut-être présenter un petit peu notre démarche au CEP du secteur.
Audrey, à ce propos-là, on prend simplement rendez-vous avec eux de la même façon pour la
Alors,
plateforme?
moi, en l'occurrence, je connaissais cette personne et puis je l'ai sollicité pour lui demander un échange. Je pense que si tu te rapproches de l'organisme qui pilote les CEP du secteur, peut-être avec la même intention que moi, quoi, de comprendre leur mission et ça peut être, enfin, tu vois, c'était moi au départ, c'était dans cette, enfin, c'était cet objectif-là et puis du coup ça. Enfin, elle a apprécié la démarche, quoi. Donc, j'y étais pas dans un but du tout commercial ou rien du tout, hein. J'étais vraiment, moi, pour la prise de connaissances, quoi. Donc voilà. Donc, il y a l'option où la personne ne sait pas du tout. Et bien évidemment, il y a l'option aussi où la personne sait ce qu'elle veut, enfin, ce qu'elle envisage, en tout cas, qu'elle a une idée plus précise. Et du coup, là, c'est un autre. Enfin, le conseiller va l'aider dans les dispositifs qu'il peut proposer. En termes de dispositifs, alors attendez, je reprends mes notes. Une fois le bilan. Ah oui, on va partir du moment où soit la personne sait ce qu'elle veut faire et où la personne a fini ou en tout cas arrive à la fin de son bilan de compétences et potentiellement au rendez-vous 5, à partir du rendez-vous 5, et veut aller plus loin dans ses démarches. Il y a plusieurs. Donc là, l'idée, c'est que la personne arrive quand même avec un projet maturé, et les CEP, si c'est pas des, peuvent aussi aider la personne dans les dispositifs d'immersion. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de délivrer des conventions de stage pour pouvoir faire des immersions. Ils peuvent faire 35 heures maximum par entreprise et il n'y a pas de limitation dans le nombre de conventions que le CEP peut délivrer aux bénéficiaires. Et il faut savoir que plus le projet est maturé et plus le bénéficiaire a des éléments qui prouve qu'il a fait une immersion et que son projet est bien abouti, plus il aura de chances de pouvoir bénéficier derrière d'aide au financement de sa formation. Donc c'est vraiment moi maintenant, depuis que j'ai cette information, quand les personnes se questionnent un petit peu et enfin voilà, quand ils se disent bah, comment je vais faire si je quitte mon travail, enfin je les encourage vraiment dans tous les cas à faire des immersions pour que bah, pour enrichir un potentiel dossier de financement. Voilà. Donc
Ouais, je rebondis sur ce qu'a dit Audrey. Moi, j'ai vu le cas de quelqu'un dans mes bénéficiaires qui a fait une demande de, on en parlera tout à l'heure, de transition pro, donc de financement de reconversion par transition pro, qui s'est fait retoquer la première fois parce que dans son dossier, il n'y avait aucune trace de stage d'immersion. Et donc, il a fait des stages d'immersion, il a représenté le dossier et c'est passé. Que ça montre quand même l'implication, la maturation du projet, et ça prouve que la personne, elle est allée sur le terrain voir ce que c'était que ce métier, quoi. Ouais,
Pareil
Myriam?
pour les enquêtes métiers, mais bon,
Pareil pour les enquêtes métiers, mais l'immersion,
avoir
c'est
un
encore
petit
mieux. L'immersion, c'est encore
avoir
mieux.
on est d'accord, mais rédiger quelque chose sur les enquêtes métiers, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
Muriel,
Ouais,
tu avais
Myriam.
une question?
Oui, merci. En fait, moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui étaient allées voir leur CEP en leur disant qu'elles avaient commencé un bilan et on leur avait dit, finissez votre bilan avant de venir nous voir. Alors
Bah
que moi, je
oui.
trouve ça intéressant justement de pouvoir faire ces fameux stages.
Oui, mais
Oui,
oui.
mais tu peux aller voir le CEP pour demander les conventions de stage, mais en fait, ça ne sert à rien d'aller voir un. Enfin, le CEP, effectivement, il va te dire, bah, faites votre bilan, faites émerger le projet et revenez me voir
C'est
pour
ça.
voir comment après on va le mettre en œuvre, votre projet.
Ouais. Ouais, voilà,
Le
c'est ça, c'est
CEP,
une
il ne
question que
travaille pas
j'avais.
sur la notion d'amont. Il travaille sur à partir du projet.
OK.
En fait, il vient après nous. Mais
Voilà, c'est ça que je voulais savoir.
il peut venir aussi
En
pendant, en même
amont.
temps que nous, mais à partir du rendez-vous 5, quoi. C'est-à-dire quand si une fois que le projet il est identifié, alors c'est sûr qu'il ne faut pas aller voir un CP en disant bah, je vais faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, dites-moi comment je
Oui.
peux faire. Ce n'est pas le métier du CEP. Il faut arriver au CP en disant voilà, c'est ça que j'ai identifié comme
Le
projet.
plan A.
Je suis en train, ouais, c'est le plan A. Je suis en train de terminer mon bilan de
B.
compétences. Voilà, maintenant, ça s'affine. J'ai besoin de faire des immersions. J'ai besoin de trouver une formation. Et là, le CEP, tu confirmes, Audrey, hein, que
Oui, bah c'est
parce
ce
que bon
que
timing,
effectivement.
c'est au minimum après le rendez-vous 5,
Oui.
voire après. Hein,
C'est quand le projet est identifié.
Ouais.
Si le
Voilà,
projet
c'est ça,
est
c'est.
identifié au rendez-vous 3, bah, il est au rendez-vous 3. S'il est au rendez-vous 7, bah, c'est le rendez-vous
Ouais.
7.
Après, il
OK.
peut arriver que
D'accord.
des bénéficiaires puissent avoir deux ou trois idées en tête, mais des idées très précises.
Oui.
Là, le CEP peut être en mesure
Ils ont besoin de
de
tester, c'est
fournir
ça.
des conventions qui lui permettront de faire une immersion dans ce, enfin, dans ce, pour vraiment enfin, définir c'est quoi le projet
Ouais.
final, quoi.
Alors, pour les immersions, je suis d'accord, Audrey. Par contre, quand il s'agira de financer une formation, le
Et ce
CEP
sera oui,
accompagnera sur
que
le
ce soit des
financement
oui, bien sûr.
d'un projet et
Oui,
pas, voilà, pas de deux ou trois
bien sûr.
possibilités, quoi.
Mais effectivement, avant d'aller financer un projet pour finaliser le choix, faire une ou enfin plusieurs
C'est
immersions
ça, tout à
peut
fait.
être un plus.
Ouais.
Donc, il faut savoir
Merci.
aussi que après le premier rendez-vous de diagnostic, donc si la personne vient alors qu'elle ne sait pas ou si elle vient quand elle a déjà une idée plus précise de ce qu'elle veut faire, le bénéficiaire a un an pour revenir voir son CEP. Donc, imaginons qu'il vient voir avant de faire un bilan de compétences. Voilà, si le délai d'un an est dépassé, il recommencera par un rendez-vous de diagnostic avec le CEP. Voilà, juste pour info. L'accompagnement du CEP, il peut aller jusqu'à 7 rendez-vous. Et auquel cas, il y a quand même une possibilité de réactiver une deuxième tranche de 7 rendez-vous si vraiment enfin, voilà, ça n'aboutit pas. Mais bon, avec l'expérience de cette personne, elle me disait que c'est rare que ça aille jusqu'à 7 rendez-vous quand même. Donc, comme pour le bilan de compétences, le CEP, il va être là pour conseiller, pour guider, pour soutenir, mais pas pour faire à la place du bénéficiaire. Donc, c'est bien, encore une fois, c'est donner les moyens, mais après, les actions, ça dépend de la personne, toujours de la personne. Alors, moi, la personne que j'ai rencontrée, elle m'a parlé des deux dispositifs sur lesquels le CEP pouvait être à même d'accompagner leurs bénéficiaires. Donc, Le premier dispositif, enfin, tous ces dispositifs sont portés par Transition Pro-Bretagne, en Bretagne. Alors après, pour hors Bretagne, je pense que ça doit être, ça doit être
Ils ont des
national.
antennes dans toutes les régions, hein, Transition
Voilà.
Pro. Il y a
Donc,
Transition Pro Pays de Loire, Transition
voilà,
Pro.
c'est ça. Et
Transition Pro
effectivement,
Région.
voilà, c'est ça. Et donc, le Transition Pro-Bretagne, c'est l'organisme qui porte les actions des CEP au service des actifs et des entreprises. Parce qu'il y a vraiment une interface entre le bénéficiaire aussi et potentiellement son entreprise. C'est comme Pôle emploi ou Cap emploi, finalement, qui portent les actions de leurs conseillers pour les demandeurs d'emploi. Enfin, c'est un peu la même chose. Donc, les deux dispositifs phares de Transition Pro-Bretagne, c'est le projet de transition professionnelle, donc ce qu'ils appellent le PTP. Donc, le PTP, c'est quoi? C'est l'ancien FONGECIF. Donc, le PTP, il offre la possibilité de partir en formation tout en restant salarié de son employeur. Et du coup, l'employeur se fait rembourser ses charges salariales par France Compétences. Avant, quand on était sur le dispositif FONGECIF, l'entreprise pouvait refuser 3 fois la demande. Aujourd'hui, avec le PTP, les conditions ont évolué puisque l'employeur ne peut pas refuser à partir du moment où la demande est faite 4 mois avant le début de la formation, avant le départ du salarié en formation. L'employeur a la possibilité de reporter le détachement de son salarié seulement s'il peut justifier que le départ de la personne mettrait en péril la viabilité de son entreprise. Voilà. Et même si, bien évidemment, même si le salarié a une bonne entente avec son employeur, que la communication est bonne, toujours, bien évidemment, le CEP le fera, mais il recommandera toujours d'avoir une preuve écrite du fait qu'il a bien fait sa demande. Voilà. Mais bon, ça, le CEP sera même de l'expliquer, mais effectivement, il faut qu'il puisse avoir une preuve. Si l'employeur ne donne pas son retour sous 1 mois, la demande, elle est considérée comme validée. Le bénéfice, enfin voilà, le CEP indiquera que voilà, il existe des modèles types sur le site Transition Pro pour pouvoir faire ses demandes, etc. Les prérequis pour avoir accès au PTP, c'est d'être en cours de contrat au moment du dépôt de la demande, c'est-à-dire que si par exemple il y a un licenciement qui est prévu, si la demande est faite en amont, ça ou enfin ça la demande est recevable. Pour les CDI justifiés de 24 mois d'activité, dont 12 mois consécutifs chez l'employeur actuel, et pour les CDD justifiés de 24 mois d'activité salarié consécutif ou non, donc 4 mois en CDD au cours des 12 derniers mois. Donc, après, il y a plein de particularités pour les intérimaires, les intermittents. Tout est expliqué sur le site Transition Pro. Il y a toutes les conditions d'accès. Voilà,
Aller sur le site, hein, ouais, y a vraiment tout est sur le
je vous
site.
invite à y aller faire un tour parce qu'il est vraiment bien fait et on trouve vraiment toutes les informations assez facilement. Et aussi, dans les prérequis, chose importante, la demande peut se faire pour un accès à une formation d'une durée inférieure ou égale à 1200 heures. Voilà, quand il y a une demande de fait, ça passe en commission. Il y a une commission par mois. En Bretagne, c'est le troisième jeudi par mois. Enfin, voilà. Il faut impérativement que la personne soit sous contrat au moment du passage en commission. Et il faut savoir qu'il y a des dossiers prioritaires qui sont traités, c'est-à-dire les personnes ayant un niveau bac ou en dessous du bac, les personnes en situation de handicap, les personnes en procédure de licenciement économique ou autre. Les demandes pour des formations certifiantes ou qualifiantes, et les projets d'accès à des métiers en tension. Voilà, donc ça, ça passe, oui.
Ça, c'est super important de bien intégrer le fait que moins les gens sont qualifiés, plus ils ont de chances d'avoir
C'est
un
ça.
financement Transition Pro.
C'est ça.
Et c'est intéressant parce que c'est souvent des gens avec qui on a du mal qu'on a du mal à aider. Dans les gens peu qualifiés, c'est pas toujours facile de les envoyer, de les assurer qu'ils vont pouvoir arriver à avoir une formation financée.
Voilà, donc les demandes sont traitées au maximum sous 2 mois. Enfin, enfin, dans tous les cas, si vous ne passez pas dans la commission du mois, ce sera forcément sur le mois suivant. Pour faire un dossier PTP, il faut compter en moyenne au moins entre 3. Enfin, il faut faire son dossier au moins 3 à 6 mois avant le début de la formation.
Moi,
Et
je dis
puis
six
ça.
mois souvent aux gens
Six mois, six mois.
tranquilles.
Ouais, voilà. Pour un dossier complet, il faut un justificatif d'inscription ou de préinscription en formation. La partie employeur, enfin le fait que l'employeur connaît, enfin voilà, valide la demande. Parce qu'il y a un dossier de demande à faire sur le site de Transition Pro. Donc ça, il faut que ce soit complété, il faut créer un compte, etc., pour pouvoir le faire. Avoir son espace personnel justement complété, une lettre de motivation exposant son projet professionnel, démontrer que c'est un projet travaillé et réfléchi, d'où l'importance des immersions, enfin, c'est comment dire, de documentation qui justifie, enfin, qui en tout cas qui prouve que c'est pas juste une idée comme ça en passant. Et démontrer que aussi que la personne, elle a identifié qu'elle retrouverait un emploi derrière la formation. Exemple, bah, évidemment, si la personne, elle a une promesse d'embauche, bah, là, c'est le Graal. Mais en tout cas, une impression des annonces d'emploi dans un secteur de 10 à 30 km, ça suffit comme étant une preuve. Enfin, en tout cas, ça peut être une preuve, ça peut être considéré comme une preuve qui montre que... Il y a bien du recrutement dans ce secteur-là et qu'elle sera enfin voilà, qu'il y a du recrutement.
J'ajoute juste un élément, Audrey. En tant qu'accompagnant de bilan de compétences, vous pouvez, moi je le fais en tout cas, si vous savez que votre bénéficiaire il va faire une demande de transition pro, moi je leur fais c'est pas la synthèse parce que voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus ramassé. Je fais ça sur une feuille A4. Je certifie que j'ai accompagné la personne en bilan de compétences. Je fais ressortir les deux, trois éléments clés du bilan qui vont dans le sens du projet. Et donc, je termine en disant, voilà, je valide que le projet de formation de Madame X s'inscrit parfaitement dans ses compétences, son potentiel et la poursuite de son parcours professionnel, le tampon, la signature et ils joignent ça à leur dossier de demande transition pro.
Sophie, j'ai une question. Du coup, tu pourrais nous partager un
Ouais, je pourrais
modèle
vous partager un modèle que j'ai
confidentiel,
fait.
évidemment, enfin, en retirant les noms, etc. Mais
Je vais vous l'envoyer, ouais.
chez le concurrent, il y a ça aussi. Donc, c'est un truc qui est assez souvent, oui,
Et ça
qui est
compte, hein.
aussi un.
Ça compte dans le projet,
Comment?
dans le dans, ça
Dans
compte
le
dans
dossier,
le
bah oui,
fait que
évidemment.
le projet a été
Oui, ça
réfléchi,
compte
hein.
vachement
C'est
dans le
sûr.
dossier. Mais on s'engage, hein, on s'engage à dire que nous, on est d'accord sur ce projet-là, hein. Voilà.
Et il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire de voir un CEB pour déposer son dossier PTP. Mais bon, c'est fortement recommandé parce que bah, il va vraiment être un appui, enfin un conseiller justement pour pouvoir soutenir. Et justement, lui aussi, il va avoir en tout cas, son action peut avoir un poids aussi dans la
C'est un
commission.
plus pour la personne, hein, c'est
Ouais,
sûr.
voilà. La demande PTP peut se faire pour un projet création et reprise d'entreprise. Et donc, si jamais c'est le cas, bah, du coup, il va falloir. C'est pas une promesse d'embauche qu'il faudra, mais un bilan, enfin, un prévisionnel, pardon, enfin, en tout cas, des éléments enfin, un justificatif de la banque pour suivi de projet. Enfin, voilà, ce genre d'éléments aussi peuvent être, enfin, seront, je dirais, nécessaires au dossier. Et il y a possibilité, si jamais le PTP est refusé, il est possible de faire une fois un recours pour représenter son dossier. Les cas de refus en général, c'est parce que la personne n'a pas assez travaillé la perspective d'emploi derrière, parce que le budget de formation peut être trop élevé ou parce que la formation n'est pas reconnue. Souvent, c'est ces cas-là qui font que c'est refusé. La prise en charge du PTP pour le bénéficiaire, donc c'est son salaire, enfin son salaire durant la période de formation, donc le salaire qu'il avait chez son employeur, enfin chez son employeur actuel, voilà, garde son salaire pendant toute la période de formation, et le coût de formation, sachant que enfin si c'est une formation qui rentre dans le catalogue CPF, de toute façon, en priorité, ils vont prendre sur le solde CPF et après, enfin, le reste à charge, ce sera le PTP, sauf si l'employeur fait un financement OPCO. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est des choses qui se travaillent justement avec, en liaison avec enfin, le Transition
CEP.
Pro et l'employeur, voilà, et le CEB. Et le CEP va accompagner le bénéficiaire aussi à justement à préparer sa demande auprès de son employeur. Ça, c'était pour le PTP.
Je
Et
vais
le
ajouter deux choses sur le PTP. La première, c'est que la prise en charge du salaire à 100%, pour moi, elle n'est OK que si la personne est payée moins de 2 fois le SMIC. Au-delà, c'est 80% pour moi du salaire. Il y a une
Ah, eh
dégressivité.
ben, alors moi, elle m'a pas de. Peut-être que c'est. Enfin, elle m'a pas précisé cet élément-là, mais peut-être que c'est
Je
le cas.
vérifie, mais moi, enfin, j'avais pris les renseignements, c'était ça. Si la personne était payée plus de 2 fois le SMIC, c'était 80% du salaire.
D'accord. Bah, c'est une information
Ouais, je vais la vérifier quand
importante.
même. Ouais.
Ouais.
Et la
Voilà.
deuxième
J'ai pas.
chose, pardon, vas-y.
T'avais une autre chose à dire?
Ouais, la deuxième chose, c'est que quand on part en formation, donc la personne reste salariée pendant toute la durée de sa formation. Et l'entreprise, si jamais la personne, à l'issue de sa formation, veut revenir dans l'entreprise, l'entreprise a l'obligation de la reprendre à un poste équivalent à celui de son départ avant son départ en formation. Alors, dans la vérité, dans la réalité, ça se passe rarement parce que quand les gens font une formation pour se reconvertir, c'est qu'ils veulent partir. Mais si jamais la personne en cours de route, elle change d'avis et finalement elle dit, bah non, je me suis trompée, je veux réintégrer mon poste, l'entreprise a l'obligation de le réintégrer, alors pas forcément au même poste, mais à un poste équivalent dans l'entreprise. Et moi, quand je discute avec les personnes de ce dispositif, je leur dis, et que les gens me disent, non, mais de toute façon, moi, je veux pas, je reviendrai pas. Et moi, je les invite à négocier avec leur employeur dès le départ en formation et de dire, actionnez la demande de rupture conventionnelle quand vous arrivez à la fin de votre formation. Et comme ça, vous enchaînez la formation et derrière Pôle emploi. Pour pas qu'il y ait de trous, en fait. Enfin, l'abandon de poste, ça ne marche plus, hein. Donc, avant, les gens, en fait, après leur formation, bah, ils ne revenaient pas. Donc, c'était un abandon de poste. Donc, ils étaient licenciés pour abandon de poste et hop, automatiquement, ils rentraient dans le dispositif Pôle emploi. Sauf que maintenant, l'abandon de poste est considéré comme une démission et donc, il n'y a plus Pôle emploi. Donc,
Après,
attention.
quand même, la personne, elle, enfin, la CEP, enfin, c'est pour ça que de s'assurer qu'il y a un réemploi à l'issue
Oui,
de la formation,
c'est ça.
c'est maintenant, c'est, enfin, ça fait partie
Bah
des éléments
oui.
qui sont les plus
C'est
regardés,
clair.
parce que enfin, dans la logique du dispositif, normalement, il ne doit pas y avoir de temps mort entre la fin de la formation et la reprise du nouveau travail, entre guillemets. Donc, Enfin, en tout cas, je sais qu'elle avait insisté sur ce point-là, que ça se... Enfin, l'idée, c'est pas de se dire je fais la formation et après je sais pas ce qui se passe, c'est vraiment...
Oui, ça c'est sûr.
Enfin, c'est un projet abouti, réfléchi et qui doit apporter, enfin, qui doit porter ses fruits en fait. Enfin, qui est censé. Mais bon, après, ça c'est le CEP pour le coup qui va être le plus à même, je pense, d'aiguiller les bénéficiaires
Oui.
là-dessus. Et voilà. Le deuxième dispositif sur lequel ils peuvent accompagner, c'est sur le dispositif qui s'appelle démission reconversion. C'est un dispositif qui va pouvoir permettre de bénéficier des droits d'indemnisation Pôle emploi classique en cas de démission pour un projet de formation ou pour une création reprise d'entreprise. Et donc, bien sûr, aux conditions actuelles qui sont que la personne, elle va pouvoir bénéficier de 57% de son salaire brut pendant 18 mois, qui sont les conditions actuelles de Pôle emploi. Pour les questions d'éligibilité, c'est le fait d'avoir travaillé 1300 jours dans les 60 derniers mois en CDI ou avoir enchaîné sans interruption plusieurs contrats sur cette même durée. Là, c'est un dossier qui doit obligatoirement être avisé par un CEP. Et sur le site démissionreconversion.gouv.fr, les personnes peuvent vérifier leur éligibilité au dispositif. En fait, ça va leur demander différentes informations et même avant de savoir s'ils rencontrent un CEP ou enfin voilà, ils peuvent aller vérifier s'ils sont éligibles ou pas à ce type de dispositif. Pour pièce obligatoire au dossier, si c'est une création, c'est un prévisionnel validé par un cabinet comptable ou la CCI ou un incubateur à la création. C'est d'attester d'une formation à la création d'entreprise. Enfin, non. C'est fortement recommandé quand on est sur un projet création de pouvoir justifier d'une formation à la création d'entreprise pour la validation en commission. Une
Et
lettre d'intention.
excuse-moi Audrey, je te coupe, mais pour l'avoir fait, moi, si je n'avais pas cette preuve que je me formais à la création d'entreprise, je n'étais pas
Ça passait
financée.
pas. Ouais.
Ça passait pas.
Donc, bah là, moi, elle m'a précisé fortement recommandé, mais j'ai cru comprendre effectivement que c'était même plus qu'indispensable, quoi. Donc,
Oui, tu n'as pas le choix. En clair, tu n'as pas le choix.
je pense qu'effectivement, si tu n'as pas beaucoup de dossiers, peut-être que ça peut passer sans, mais a priori, aujourd'hui, il faut que tous les dossiers aient ça, s'ils veulent passer, quoi.
Ouais, tu vois, ils m'ont demandé de fournir aussi un business plan.
Un quoi?
Un business plan.
Oui, c'est ça, un prévisionnel validé
Oui.
et une lettre d'intention de la banque en cas de prêt bancaire pour la création. Et plus les éléments demandés au PTP, enfin, ce que je vous ai donné tout à l'heure, sauf évidemment pour la partie employeur, parce que là, il n'y a pas de notion d'accord d'employeur. Et les pièces obligatoires, voilà, c'est les mêmes que ce que j'ai cité auparavant. Voilà ce que je peux. Enfin, les démissions reconversion, bah, souvent elles sont demandées si on ne peut pas rentrer dans le dispositif PTP ou bien si le PTP a été refusé, souvent ils peuvent basculer sur le démission reconversion. Et du coup, j'avais posé la question à la personne. Finalement, quand nous on accompagne en bilan de compétences, qu'est-ce qu'il faut avec quoi le bénéficiaire doit arriver après un bilan de compétences pour être le plus armé possible pour faire appel à eux? Et évidemment, un projet, un projet, une enquête poussée, ça je vous l'avais compris, je l'ai répété plusieurs fois, mais une enquête poussée sur le ou les métiers visés. être au clair sur ce qui ressort sur ce qui ressort du bilan de compétences, notamment en termes de compétences. Voilà, que la personne, elle est clairement réidentifiée, qu'est-ce qui fait sa singularité, ses qualités, quelles sont ses forces, qu'est-ce qui la valorise en fait. Et bien sûr, la corrélation de ses compétences, ses qualités, motivations versus le besoin et le projet envisagé. Voilà.
C'est ce que je présente moi sous cette forme d'attestation là que dont je parlais tout à l'heure. C'est ce que je résume en fait dans cette fiche là quand je fais ça.
Mais et du coup, enfin, tout ce que je vous ai dit, je pourrais vous le, enfin, pour les nouveaux, les nouvelles, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Et puis, il y a dessus sur le document, il y a aussi des liens utiles comme identifier quels sont les métiers prioritaires
Attention.
de transition pro, enfin identifier sur le site de transition pro, et également la liste des métiers en tension en région Bretagne. Voilà.
Faut que tu partes, non, André? C'est
Eh
peut-être.
bien non, en fait,
Ok,
pendant qu'on
super.
était en visio, j'ai eu un message comme quoi ils avaient 1 heure de retard.
Ah bon, bah super. Génial. Merci beaucoup, André.
Pendant
Alors,
qu'on...
oui, Bernard.
Juste une question. Florence, tu nous as parlé de ta formation à la création d'entreprise. Tu peux juste nous dire la durée, le lieu où tu l'as faite et...
Alors, il faut être patient, c'est la première chose. Il faut avoir un dossier béton. Et tu vois, moi, je n'étais pas patiente, il fallait que ce soit tout de suite parce que j'avais déjà trouvé la formation. Enfin, moi, j'étais déjà au taquet et ils m'ont envoyé carrément sur le Finistère, alors que j'habite le 35, tu vois.
Auprès de la chambre de commerce ou de
Oui, c'est la
la chambre
CCI.
de métier? C'est
Ah
la
non, je parlais
CCI.
de Transition Pro. J'étais
Oui.
suivie par le Transition Pro Finistère.
Ah, d'accord.
Voilà.
Mais moi, je te demandais la formation à la création d'entreprise, à quel endroit tu l'as faite et sur quelle durée?
En fait, moi, ma formation que j'ai faite de coach, dedans, il y avait une partie création d'entreprise. Donc,
D'accord.
j'avais le package.
Très bien. OK.
Sinon, tu as la CCI,
Le CCI.
un parcours qui. Alors, c'était 5 jours pour entreprendre. Je crois que maintenant, c'est 3 jours pour entreprendre. Et de toute façon, c'est obligatoire quand tu crées une société. Tu peux pas enregistrer une société si tu n'as pas.
Il t'a pas fait cette formation-là. D'accord.
Oui, c'est pareil pour la Chambre des métiers.
Oui, c'est
Et
pareil, c'est la même chose avec la Chambre des métiers.
la Chambre des métiers, il y avait une formation de 7 semaines autrefois. Alors après, je ne sais plus ce que c'est devenu, hein, mais voilà. Il y avait
Plus
plusieurs
light,
types
c'est
de
plus light
formations.
aujourd'hui. C'est plus light.
Merci.
Alors, je voudrais préciser juste
Juste
des
une
petites
question.
choses qui vont venir abonder
Il y
ce
a
qu'a dit Audrey.
Stéphanie qui
Merci
a une
beaucoup,
question.
Audrey. Ah,
J'ai une question par
ah,
rapport à ça.
oui.
Ça date de quand, cette obligation de formation à la création d'entreprise? Parce que.
C'est vieux, hein.
Ouais, ah bon? Parce que moi, ça fait 3 ans maintenant et on m'a jamais demandé de suivre un.
Ah, moi, j'ai créé en 2017 ma structure et quand j'ai fait les formalités d'enregistrement, si je n'avais pas ce certificat-là, alors peut-être que ça a changé depuis, hein, mais si je n'avais pas ce certificat-là, je ne pouvais pas créer ma société.
Ah ouais.
Ouais.
Alors moi, on m'a rien demandé. Je
Non, mais
suis
ça s'est
passée
peut-être
entre les
assoupli,
deux.
hein, ça s'est peut-être
Mais
assoupli depuis. Hein.
ça peut dépendre des CP,
Des
des
préfectures,
centres
peut-être. Ouais, je sais
de...
pas.
C'est ton
Ouais, parce que.
contact qui t'avait demandé ça ou
Non,
pas?
c'est la. Alors, qui est-ce qui m'a demandé ça? C'est peut-être mon comptable parce que c'est lui qui s'est chargé de mes formalités
Oui.
d'enregistrement. Donc, c'est peut-être lui.
Ouais, parce que moi je l'ai fait, mais je me rappelle pas que. Enfin, j'ai fait la formation de la CCI, mais je me rappelle pas enfin, le fait que je l'ai fait, c'était obligatoire
Ah
pour la
ouais?
création.
Alors, c'est peut-être mon comptable qui a fait de la surqualité, hein, et qui a voulu. C'est possible.
Ouais, parce que on ne me l'a pas demandé, ça date de septembre 2022.
Ouais, bah, ils ont peut-être
Bon,
assoupli ça.
ceci étant, c'est génial, il faut la faire.
Oui.
Parce que
Ouais,
c'est rare de passer 5 jours à baliser tous les cas. On apprend
après,
plein de choses.
Karine, toi, ça marche pas pour la micro, hein. C'est quand tu crées une société.
Mais je suis en EIRL, SARL associé unique.
D'accord, ok.
Bon.
Ouais, c'est bizarre.
Je pense que l'accompagnement de la BGE aussi
Ah, peut-être que quand il y a un
valide aussi
accompagnement, ça valide
les parcours.
aussi. Ouais,
Mais
c'est possible.
je me renseignerai sur le côté obligatoire parce que j'ai
Ouais.
un petit doute aussi. Ouais.
Alors, je viens apporter des petites précisions, enfin des informations en plus. Merci beaucoup, Audrey, hein, c'était hyper clair. Et puis, tu vas me dire si ce que je raconte, c'est yoyote pas, parce que mes informations sont un peu plus datées que les tiennes. Alors, ça a pu changer. Transition pro, c'est vraiment pour financer de la reconversion professionnelle. C'est-à-dire que, y a des petits malins chez les employeurs qui veulent faire passer du développement de compétences de leurs salariés dans des transitions pro. Et ça, c'est niette. Enfin, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est graphiste dans une entreprise et qui voudrait se former à la direction artistique. Et l'entreprise dit, bon, bah, tiens, t'as qu'à faire la transition pro comme ça. Bah, ça va être pris en charge. Niet, ça c'est le plan de développement des compétences de l'entreprise. C'est l'entreprise qui finance la formation. L'État n'est pas là pour former gratuitement les salariés des entreprises. L'État est là pour financer les reconversions des salariés.
C'est souvent les mêmes qui vont demander aussi à leurs salariés
De
d'utiliser leur
mobiliser leur
TPF
CPF, exactement.
pour...
Donc soyez vigilants si vous entendez des personnes, par exemple, qui veulent évoluer en interne dans leur boîte. Les gens disent bah tiens bah je vais peut-être faire une transition pro mon employeur m'a dit que ça serait bien. Mais non 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 ça c'est pas une recon ça c'est pas transition pro hein. Ça c'est l'employeur qui vous accompagne et qui paye.
Mais normalement, le CEP, je pense qu'il doit
Ah bah
être à
oui.
même de faire l'alerte, de
Ça
dire
c'est
non, c'est pas
clair. Si
possible,
on
quoi.
passe par un CEP mais quand ils veulent y aller en direct du coup voilà. Deuxième chose, les formations en alternance. Parce que il y a des personnes qui, à l'issue du bilan de compétences, vont peut-être vous dire qu'ils veulent se former en alternance. Ils vont trouver une formation en alternance. Transition pro ne rentre pas dans le cadre de l'alternance. C'est un autre dispositif de formation en alternance. Donc, pour pouvoir faire une formation en alternance, il faut être libéré de son contrat de travail, puisque c'est un contrat de salarié, le contrat d'alternance. Donc, si la personne elle est en poste et qu'elle veut se reconvertir en passant par une alternance, il faut d'abord qu'elle quitte son emploi. Enfin, il faut qu'elle soit demandeur d'emploi. Il faut qu'elle, voilà. Et ensuite, elle va être rémunérée. Sa formation va être prise en charge par l'entreprise dans laquelle il va faire son alternance et son salaire, enfin son salaire, c'est pas son salaire, elle recevra une indemnisation d'apprenti. Voilà, en quelque sorte, pour faire son alternance. Ça peut être parfois intéressant de passer par l'alternance, en fonction de la situation économique de la personne, en fonction de ce qu'elle veut faire, etc. Il n'y a pas de limite d'âge. Les gens pensent que l'apprentissage, c'est que pour les jeunes. Non. On peut faire après, alors ce n'est plus des contrats d'apprentissage, c'est des contrats de professionnalisation, des contrats de professionnalisation, c'est ça.
Oui, contrat de professionnalisation, ouais.
Mais il n'y a pas d'âge. On peut faire un contrat de pro. Là, j'ai accompagné un bénéficiaire qui a démarré en septembre une formation en alternance. Il a plus de 50 ans. Il a fait un contrat de professionnalisation. Il fait une licence en QHSE, là, et il l'a fait en alternance et il a fait un contrat de professionnalisation.
Et je pense que, enfin, tu vois, le contrat de professionnalisation, si je dis pas de bêtises. Moi, quand je suis passée de commercial dans la grande distribution à manager chez Michelin, les 6 premiers mois de mon activité chez Michelin, j'étais sous un contrat de professionnalisation.
Ça peut, s'ils te forment. Parce que du coup, ils ont une école de formation interne et donc
C'est
ils te
ça.
passent sur un contrat de professionnalisation dans leur CFA interne. Ça,
Oui, c'est
c'est
ça.
vrai. Ça, c'est possible pour les entreprises qui ont un OF intégré.
C'est le cas de la Poste aussi.
Ouais, toutes les grosses
Voilà, la
boîtes ont fait
Poste
ça. Hein.
recrute
Bah, ça leur
lors
permet de
de...
récupérer, en fait, de faire ça permet de
Oui, c'est ça.
récupérer des financements pour les formations.
Oui.
Ils se font aider pour financer les formations de leurs collaborateurs, en fait. Hein. C'est pour ça qu'ils font ça.
C'est ça. C'est que... Et puis, il fallait que j'aie marge, etc. Enfin, ça demandait un peu de rigueur administrative, mais c'était, pour le coup, derrière, ils retouchaient des subventions, quoi.
Autre information, alors, à vérifier si c'est dans la réforme France Travail qui s'applique, je ne sais pas, mais jusqu'à présent, quelqu'un qui part en contrat d'alternance Forcément, la rémunération du contrat d'alternance, c'est pas grand-chose. Pôle emploi vient combler la différence entre ce qu'il aurait s'il était au chômage et l'indemnisation Pôle alternance. Je m'explique. Quelqu'un voilà, quitte son entreprise et touche 2000 euros Pôle emploi. OK? Cette personne part en alternance et son indemnisation d'alternance, c'est 1000 euros par mois. Pôle emploi va lui payer les 1000 euros de différence pour qu'il retrouve le montant de son indemnisation Pôle emploi.
Juste une précision, Sophie, parce que là, on est passé de transition pro à l'alternance,
Oui.
mais l'alternance, c'est un vrai sujet qui est aussi important, en fait, que
Et bien sûr.
transition pro,
Oui.
parce que dans le commun enfin, l'alternance est surtout possible jusqu'à un certain âge, en fait, il y a des
Non, non,
questions d'âge, là.
c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'âge. Une idée reçue.
D'accord.
Je parlais de mon bénéficiaire, là, il est en alternance en ce moment, il a 52 ans. Il n'y a pas de
Alors,
limite.
du coup, là, si on reprend le cas de ton bénéficiaire, il a fait une demande de rupture conventionnelle et il est
Oui.
parti en apprentissage.
Oui.
Et du coup, ce que tu dis, là, c'est que il est dans un cas de figure où son salaire est. Enfin, ça.
Son
Pas son,
indemnisation Pôle emploi.
son, voilà, son indemnisation Pôle emploi est supérieure au montant qu'il a via son contrat d'apprentissage.
Oui.
Et du coup, Pôle emploi, pendant ces 18 mois, va continuer à lui payer la différence.
Alors,
Enfin,
sa formation dure un an. Donc, pendant son année de formation, Pôle emploi vient combler la différence entre ce qu'il toucherait s'il était chômeur et ce qu'il touche en étant apprenti.
est-ce que ça lui augmente, enfin, est-ce que ça repousse
Oui,
son temps d'indemnisation?
en fait, ça cagnotte Pôle emploi, du coup, et ça va
Oui,
s'étaler
c'est
plus dans
ça.
le temps. Oui, tout à fait. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il en est dans la réforme France Travail, là, hein, qui est en train de se préparer, hein. Là, je vous parle de... C'est assez récent, mais il faudrait qu'on se creuse dans la réforme France Travail. Parce que là, je ne sais pas si vous avez entendu, déjà, ils ont supprimé les aides à l'alternance pour les entreprises à partir de la rentrée de
Oui,
septembre.
parce que
Fini. Donc,
c'était quand même une grosse.
il y a eu de l'arnaque, oui, il y a eu de l'arnaque.
Oui, énormément.
Il y a eu de l'arnaque.
Les entreprises prenaient
Les
des
entreprises ont
alternants comme qui
abusé, hein,
rigolent.
voilà. Les entreprises ont abusé. Mais... Tu avais une question, Muriel?
Ouais, ce que je voulais dire, c'est que en contrat d'alternance, donc c'est celui qui est entre en effet 26 ans voilà,
Oui.
plus, le minimum, ça va être le SMIC, de toute façon,
Il
au
touche le
niveau de la
SMIC, oui,
loi.
tout à fait.
Et moi, souvent, les personnes qui sont parties ou qui hésitaient me disaient, oui, mais je vais être payée au SMIC, alors que non, c'est négociable. C'est-à-dire que c'est quand même un salaire, le
Ah
contrat de
oui, c'est
professionnalisation.
minimum le SMIC, mais si l'employeur il veut donner 2000 euros, il peut donner 2000 euros, hein.
Voilà, parce que la personne qui arrive, moi, c'est ce que je dis souvent,
Tout
vous
à
arrivez en
fait.
contrat de pro, c'est pas comme l'apprenti qui commence en salon de coiffure et qui va passer le balai.
C'est
Vous
ça.
êtes opérationnel, il y a des choses que vous savez faire. Donc, parfois même,
Tu as
bah,
tout
comme
à
tu
fait
dis,
raison, Muriel. On peut
oui, une
négocier
personne
son
de
salaire
50 ans.
d'apprenti, hein.
Oui,
Oui,
une personne de
je
50 ans, elle
prends.
arrive avec des
Bien
sacrées
sûr.
compétences. Donc, il y a moyen de
Oui,
négocier.
tout à
Je prends
fait.
mon cas à moi, quand j'étais en contrat de professionnalisation, en fait, j'ai eu exactement la même rémunération que j'ai eue pendant tout. Enfin, bien, enfin, en tout cas,
Oui.
je partais de. Ça n'a pas
Du
bougé
salaire
quand mon compte.
négocié. Voilà.
Voilà, c'est ça.
Complètement.
En fait,
Oui,
j'ai
enfin.
découvert le jour où j'ai signé mon contrat que j'étais en contrat de professionnalisation, puisque
Oui, ouais,
c'était
je n'avais pas
finalement.
été, oui, c'est ça.
C'était leur sauce interne à eux de le monter comme ça, quoi.
Et pensez à, enfin, quand vous accompagnez les personnes, pensez à leur parler de l'alternance, parce que je pense que ce n'est pas forcément un réflexe qu'on a. Aujourd'hui, ces dispositifs de comblement, entre guillemets, France Travail, le fait de pouvoir négocier, voilà, et aujourd'hui, il y a quand même des entreprises. Toutes les entreprises ne recherchent pas forcément des petites mains quand elles prennent des alternants. Il y a aussi des entreprises qui cherchent vraiment de la compétence. Et quand vous arrivez à 35, 40 ou 45 ans avec déjà 20 ans d'expérience en entreprise, même si c'est sur d'autres fonctions, vous allez apporter beaucoup plus qu'un jeune de 18 ans qui sort du bac et qui fait
Merci.
une formation. Donc ça se valorise, Muriel, tu as tout à fait raison, ça se
Moi,
valorise,
c'est vrai,
c'est un
j'en
vrai
parle tout le
plus.
temps. Pour en avoir fait des contrats pro, pour avoir embauché en contrat de pro, c'est un système génial. Et j'en parle tout le temps. Et
Et ça peut
l'effort
permettre aux gens de se
d'intégration,
former tout en
ouais.
travaillant, tout en... Enfin voilà, il y a
C'est
des plein
ça.
de choses qui sont possibles.
Alors, par exemple, si une personne veut faire de l'alternance, comment elle va se renseigner? Auprès des écoles
Oui.
ou auprès des entreprises?
Les
Ou
bah, il faut
plutôt
d'abord
auprès
trouver
des
la
écoles?
formation. Tu vas,
Ouais.
elle va d'abord trouver la formation. Et après, une, alors, l'école va devoir, enfin, une fois que la formation est identifiée, la personne va devoir trouver l'entreprise qui l'accompagne dans sa formation. Alors, il y a des formations. Il y a en ce moment, par exemple, il y a des secteurs qui sont, par exemple, en développement informatique. Il y a tellement de demandes, en tout cas sur le bassin rennais, que, il y a des écoles qui ont déjà des partenariats en fait avec des entreprises où les entreprises disent, nous, on a besoin de 4 alternants cette année. Donc, tu nous trouves, il faut que tu nous en places 4. Voilà. Donc là, bah, pour l'étudiant, entre guillemets, enfin pour l'apprenant, c'est génial parce que du coup, il rentre dans l'école et il a déjà son alternance. Et puis, il y a d'autres formations où c'est l'apprenti qui va devoir aller trouver l'entreprise qui accepte de l'accompagner dans son alternance.
Il y a un site qui s'appelle la bonne alternance, qui on pense qu'il est réservé qu'aux apprentis. Mais les apprentis, c'est ceux qui sont en contrat
Oui,
d'apprentissage.
c'est ça, mais
Sinon, c'est
oui.
les alternants, ceux qui sont
C'est
plus. Enfin,
ça.
l'alternance, c'est global, mais il y a les apprentis et les contrats de pro.
C'est ça.
Et la bonne alternance, on peut aussi aller regarder pour des contrats de pro.
Ouais. Donc, c'est une autre façon de financer une reconversion, en fait. C'est une autre façon de faire. Et qui n'est pas transition pro, puisque pour le coup, évidemment, un transition pro ne va pas venir rajouter du financement sur du financement.
Pour les personnes qui sont en arrêt de travail
Ouais.
pour des problèmes physiques sur leur poste et qui s'orientent vers des postes moins physiques, ils peuvent pas faire de formation pendant l'arrêt de travail.
Bah, il faut d'abord qu'ils fassent déclarer leur incapacité ou leur inaptitude. Pour moi, c'est le démarrage. Et c'est ce qui va
Donc,
ouvrir des financements, en
tout ce qui
fait.
est TH là,
Pardon?
tout ce qui est RQTH.
Oui, sans forcément aller jusqu'à. Parce que RQTH, c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. On peut aussi avoir une déclaration de la médecine du travail d'inaptitude à son poste de travail ou d'incapacité à son poste de travail. Est-ce que vous savez la différence entre incapacité et inaptitude? Non?
Non.
L'incapacité, elle vous suit. C'est-à-dire que l'incapacité, c'est une incapacité. Par exemple, si je suis coiffeuse et que j'ai une incapacité de travail, c'est-à-dire que je suis incapable d'exercer le métier de coiffeur. Mais je suis pas forcément RQTH. Par exemple, si j'ai une allergie
Allergie
aux
aux cheveux.
produits, c'est pour un handicap, ça. Donc, je ne vais pas avoir de reconnaissance RQTH. Par contre, je vais avoir une déclaration d'incapacité de travail. Et cette
Pour une
incapacité
profession
de...
bien particulière.
pour une profession. Et cette incapacité, elle vous suit. C'est-à-dire qu'elle est rattachée à votre personne. L'inaptitude, elle est rattachée au poste et à l'entreprise. Vous allez être déclaré inapte à être assistante commerciale chez le DUF. Et donc, l'inaptitude, elle va ouvrir à une obligation de l'employeur de vous proposer un reclassement. L'incapacité aussi, hein, peut vous obliger, peut amener un reclassement. Si le salarié refuse le reclassement, c'est automatiquement le licenciement pour inaptitude ou incapacité. Le salarié n'est pas obligé d'accepter le reclassement. Hein. Pas du tout. Hein. Par exemple, je suis assistante commerciale chez le DUF, je suis déclarée inapte et on me propose un poste de comptable, je peux très bien refuser. Hein. Et à ce moment-là, l'employeur sera obligé de me licencier. Et là, on retombe, Laetitia, dans les dispositifs. Quand on est en arrêt, c'est un stand-by. On ne peut rien faire, en fait. L'arrêt, c'est une suspension du contrat, mais tu ne peux pas engager de transition pro, tu peux pas. En fait, tu es dans un espèce de no man's land où ben, il faut clarifier ta situation.
Alors, ça m'étonne ce que tu dis, Sophie, parce que déjà, il y a pas mal de personnes bon, qui font un bilan de compétences en arrêt.
Oui, alors ce n'est pas tout à fait pareil. Tu n'engages pas un dossier transition pro. Tu fais un bilan de compétences et normalement, tu dois demander l'accord de ton médecin quand
Oui,
tu es en arrêt
et moi,
de
j'ai eu
travail.
des personnes qui ont demandé l'accord du médecin, même pour faire des formations, et
Et ils
qui
sont
l'ont.
obligés aussi.
Ouais. Oui, mais il la finance, la formation. Là, en fait, on est en train de parler de quand tu veux mettre en place un dispositif
Ah oui,
de
transition pro, faut être
financement.
sorti de l'arrêt de travail.
Voilà. Mais effectivement, tu peux faire une formation pendant ton arrêt. Si par exemple, moi, je suis en arrêt de travail et je veux me former à l'anglais. En mobilisant mon CPF, personne m'en empêche. Par
Et je sais
contre,
qu'il y a des personnes qui font les démarches auprès du CEP,
ouais,
tout en étant en arrêt, hein, bon, des personnes qui ne veulent plus revenir dans leur entreprise, par exemple.
ouais,
Mais elles savent qu'à partir du moment où elles vont enclencher la formation,
elles seront plus en arrêt.
elles ne seront plus en arrêt, mais elles
Voilà,
font quand même les démarches
on est d'accord.
pendant
Oui,
leur arrêt, ouais. Ça, c'est
ça
OK.
tu as raison. Mais il y a un moment où ce no man's land, en
Il
fait, il
faudra
va
qu'elles en
devoir
sortent,
s'arrêter.
évidemment.
Voilà,
Ouais.
il faut en
OK.
sortir. Donc, soit en rentrant dans un transition pro, et à ce moment-là, on redevient salarié de.
Voilà.
Voilà.
Ouais.
Soit en demandeur d'emploi. Tiens, j'en profite pour dire, si vous. Ça peut arriver, la personne, en fait, elle fait une demande de transition pro et elle fait une formation où il n'y a qu'une semaine de formation par mois. Le reste du temps, elle doit être à son poste de travail. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise va autoriser son absence et va récupérer le salaire le temps de formation. Mais le reste du temps, la personne, ben, elle reste salariée de l'entreprise, donc elle doit venir faire son travail le reste du temps. Par exemple, je ne sais pas, voilà, je suis comptable, je me forme. Je fais une transition pro pour me former au développement informatique, mais je trouve une formation où la formation, c'est une semaine par mois pendant 6 mois. Eh ben, le reste du temps, il faut que je fasse mon travail. Donc, je suis absent une semaine par mois, je suis détaché en formation, mais les 3 autres semaines ou 4 autres semaines, je suis à mon poste de travail. Je ne suis pas chez moi. Voilà.
Ça,
Sauf
c'est
si.
éligible par transition pro?
Oui.
Ah bon, parce que moi, en Pays de Loire, j'ai quelqu'un qui m'avait dit que ce n'était pas possible si la
Ah.
formation était.
Pour moi, il y a un temps
Ok.
maximum d'heures, mais pas mini. Pour moi, c'est possible.
D'accord.
Et par contre, tu peux avoir aussi de l'ordre distanciel, c'est-à-dire enfin, pas de travail personnel, où là, on peut te dégager du temps aussi.
Ok. Moi, je serai plus vigilante. Ouais.
Sous réserve, hein. Alors, je pense pas. Enfin, en
En
tout
tout cas,
cas, moi,
tu
quand j'avais fait
mets
mes recherches, c'était
le nombre d'heures.
possible. Est-ce que ça a changé depuis? Mais.
C'était peut-être une question de nombre d'heures, en effet. Ouais.
Oui, Audrey l'a évoqué, il y a une question de nombre d'heures
Maximum.
max.
Et d'ailleurs, par rapport à ce nombre d'heures maximum, je sais que la conseillère avec qui j'ai échangé. Enfin voilà, il y avait certaines formations qui dépassaient le 1200 heures, mais j'ai un doute sur le fait que enfin, c'était aux bénéficiaires de compléter ou, enfin, ou si c'était automatiquement refusé, je ne sais plus.
Moi, j'ai eu le cas sur une personne que j'ai accompagnée qui devait partir sur une formation qui durait 2 ans. Et en fait, il y a eu un. Tout le monde s'est mis autour de la table, en fait, pour trouver une solution. Pendant 1 an, elle a été en transition pro. Et la deuxième année, c'est Pôle emploi qui a pris le relais. C'est-à-dire que sa première formation, elle a fait un dossier transition pro et ensuite, elle a été licenciée par son employeur. Il y a eu un. Donc, elle est devenue de fait demandeur d'emploi et c'est Pôle emploi qui lui a financé sa deuxième année de formation.
D'accord.
Ouais, elle a mis
Ouais.
du temps à monter le bazar, hein. Elle
Bah
a,
oui,
la première
j'imagine.
session de formation, elle l'a ratée. Elle a dû attendre 1 an le temps de monter tout ça, mais elle a réussi, hein.
Et c'était un métier en tension ou pas du tout?
C'était TISF, non, technicien d'insertion sociale et familiale, donc ce n'est pas spécialement un métier en tension et c'est passé.
Mais il y avait enfin en tout cas il y avait de l'emploi derrière, quoi.
Oui, il y avait de l'emploi derrière. Puis elle avait fait un bilan de compétences, donc j'avais abondé aussi sur le dossier. Elle avait fait pas mal d'enquêtes métiers, enfin, c'était bien. C'était plutôt. Son dossier était plutôt bien monté, quoi. Alors après, souvent les personnes ils vous disent bah, je sais pas où trouver de l'information sur les formations. J'y comprends rien, c'est trop compliqué, je sais pas ce que c'est, voilà. Là, ben, je pense que, alors c'est vrai que dans les méandres d'Internet, c'est pas forcément toujours facile. Là, vous pouvez il y a le réflexe CEP, clairement. C'est-à-dire que là, c'est leur métier. C'est nous, notre métier, c'est de définir le
Le
projet,
projet.
de voir avec eux la meilleure façon de s'y prendre, mais après, techniquement, trouver la bonne formation. Alors moi, si vous avez des connaissances sur certaines formations, bah évidemment, vous pouvez aider vos bénéficiaires, mais passez pas des heures à faire des recherches Internet avec eux, quoi. C'est pas votre boulot, là. C'est pas votre boulot. Donc, vous passez la main, quoi. C'est pas, voilà. Je sais pas si vous êtes de temps en temps contacté. Moi, je le suis de temps en temps aussi. Par des centres de formation de Rennes. Par exemple, il y a des centres de formation qui, de temps en temps, prennent contact avec les consultants en bilan de compétences pour leur expliquer leur offre de formation. Et du coup, ça, c'est assez pertinent. Et comme ça, ben, si jamais un jour vous avez une demande dans tel domaine, vous allez pouvoir penser, ah, mais tiens, je l'ai rencontré, lui, ou j'ai sa plaquette. Ou... Donc, n'hésitez pas aussi à répondre à ces sollicitations. S'il y a des gens qui veulent vous parler d'eux, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un centre de formation là sur Rennes qui forme des adultes au métier de commercial. Il n'y en a pas beaucoup, au métier de vendeur, un terrain. Bah, du coup, j'étais super contente. On a échangé pendant 1 heure. Il m'a expliqué ses formations, comment ça se passait. Bah, clairement, j'ai ses coordonnées. Et si demain, j'ai un bénéficiaire qui veut se former à la vente, je sais où l'envoyer, quoi. C'est intéressant. Et puis ces gens-là, si un jour ils rencontrent quelqu'un qui veut changer de boulot, ils penseront à vous. En fait, voilà, c'est le réseau. Mais on ne peut pas tout savoir.
Comme Sandrine, je vais devoir vous quitter.
Ouais, on va peut-être, on verra si on va jusqu'à peut-être couper avant. Mais en fait, salut Audrey et Sandrine. Merci beaucoup Audrey. Merci
À
d'avoir.
bientôt. Bonne
Merci
journée.
Audrey.
Au revoir.
On n'est pas censé tout savoir. Enfin, il y a un moment, c'est aussi professionnel de dire, bah, écoutez, là, je vais vous mettre entre les mains de quelqu'un qui va plus vous aiguiller pour la recherche de formation, etc. On ne peut pas tout connaître, quoi. Est-ce que ça a éclairé un peu votre lanterne déjà, ce qu'on a eu aujourd'hui? Ouais.
Super.
Je vais demander à Audrey peut-être qu'elle nous renvoie son topo écrit parce qu'elle nous l'avait déjà partagé, mais ça fait un petit moment. Donc là, ça serait bien qu'elle nous le renvoie. Et moi, je vais vous repartager, je vais l'anonymer, mais la typologie d'attestation que je fais pour muscler un peu les dossiers des bénéficiaires qui font des demandes soit de transition pro, soit d'émission reconversion. Et c'est vrai que dans le process, je suis assez d'accord avec Audrey. Quand j'accompagne un salarié qui veut se reconvertir, je l'invite toujours à dégainer d'abord transition pro. Et s'il y a un refus transition pro, alors moi je dis il y a 3 temps pour moi, c'est soit transition pro. S'il y a un refus transition pro, c'est la négo de rupture conventionnelle avec l'employeur. Pour aller dans le circuit Pôle emploi. Et sinon, c'est le processus d'émission reconversion. Bon, quand il a épuisé ces trois-là, ça devient un peu plus compliqué.
Moi, je placerai aussi l'alternance en
Et
UGSD
l'alternance, oui, bien sûr,
2 ou
c'est
1,
ça. Et
peut-être selon.
bien sûr, l'alternance. Alors, toutes les formations n'existent pas en alternance.
Non, voilà. Mais
Et pour moi, il n'y en a pas
effectivement.
assez pour les adultes. Ouais.
C'est très peu connu, hein, le contrat de pro.
Mais c'est
La
très peu.
plupart des gens
Pour
à qui
les
j'en
aides,
parle
pense
ne
que c'est
connaissent
pour les
pas.
jeunes, quoi, et qu'après c'est
Bah oui.
fini, mais non.
L'État devrait faire plus
Ouais, de
de
communication
publicité
là-dessus.
de com là-dessus.
Ouais. Oui, le contrat de professionnalisation, évidemment, qui est un bon moyen aussi d'aller se former sans, voilà, avec une autre optique. Une autre optique de... Donc là, ben, il faut aller chercher la personne qu'elle cherche, qu'est-ce qui existe en alternance. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Parfois, les personnes sont bloquées sur la formation en se disant ah oui, mais moi, je veux pas retourner à l'école. Moi, le français, les maths, l'histoire géo. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore dans leur référentiel que quand on parle formation, on parle école. Sortez-leur ça de la tête tout de suite. Et moi, je leur dis tout de suite, attendez, là, on est en train de parler de formation professionnelle. Donc, toutes les matières scolaires, il n'y en a pas. Vous allez apprendre un métier. Donc, vous allez apprendre des connaissances et des compétences qui vont être propres à un métier. Oubliez les. Et donc, ça les soulage parce que y a beaucoup de méconnaissances, hein, dans la formation et il y a des personnes qui pensent qu'ils vont devoir retourner à l'école, faire des maths, faire de l'anglais, faire du français, faire de l'histoire. C'est pas ça la formation professionnelle. Hein. C'est... Voilà. Et puis, je voudrais attirer aussi votre attention sur une autre chose qui, pour moi, est aussi importante. C'est le niveau prérequis. Par exemple, où il y a beaucoup de formations où vous allez avoir prérequis bac ou prérequis niveau bac plus 2. Imaginons, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, comment dire, mon bénéficiaire qui est parti en licence QHSE, là, celui c'est bien, il coche plein de cases d'exemples en alternance. C'est un monsieur, donc, c'est un plus de 50 ans, à la base, il a un bac. Et après, bah, il a fait tout un parcours en entreprise et du coup, il a fait son petit bonhomme de chemin avec son bac. On fait le bilan de compétences, les métiers de QHSE et donc il identifie il y a une licence pro à Rennes qui est à Rennes 2, à l'université de Rennes qui est très QHSE. Il veut la faire en alternance. Il télécharge le dossier et là, il voit prérequis bac plus 2. Et là, il se dit, c'est mort. Eh ben, il va falloir que je passe d'abord un BTS avant de pouvoir faire la licence. Et là, non, il y a un dispositif qui s'appelle la VAPP, qui n'est pas la VAE. La VAPP, c'est la validation des acquis par le parcours professionnel. Et c'est une validation de niveau. Dans une VAE, vous allez chercher un diplôme, c'est-à-dire si je veux passer un BTS, par exemple, action commerciale en VAE, donc là, il va falloir que je justifie de maîtriser tous les modules de compétences du référentiel du BTS, action commerciale, qui n'existe plus du reste, mais bon, peu importe. La VAPP, je vais valider d'un juste, simplement, donc c'est beaucoup plus light, d'un niveau. Et donc, je vais prouver que j'ai un niveau Bac plus 2. Mais de manière générale, on s'en fiche en fait de quel niveau. Et donc, si les personnes n'ont pas le prérequis de ce fameux Bac plus 2 ou Bac, dédramatiser en disant, vous pouvez faire une VAPP, vous allez donc valider par votre expérience que vous avez acquis un niveau bac ou un niveau bac plus 2 ou un niveau bac plus 3 et donc vous allez pouvoir rentrer dans la formation dont le prérequis est un bac plus 2 sans avoir de bac plus 2. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles en fait. Voilà, mais c'est vrai que quand on n'est pas au courant, bah vous, votre première réaction, ça pourrait être, ah bah oui, c'est bête, vous n'avez pas de bac plus 2, bah non, alors cette formation, vous pouvez pas la faire. Bah si, en fait, il peut la
Alors,
faire.
la VAPP, c'est la validation des acquis
Oui,
personnels
c'est
et
ça.
professionnels.
Personnel et
Donc,
professionnel, c'est ça. J'aurais dit.
ça vaut aussi pour les femmes qui ont eu trois enfants et pas nécessairement une profession et
C'est ça.
qui, parce que c'est un vrai métier de chef d'entreprise, en fait, hein, dans certaines familles.
Tout à fait. Et
Alors,
donc,
c'est drôle, moi,
c'est plus light
j'aime
comme
beaucoup.
dispositif. C'est assez light comme dispositif. Et du coup, voilà, vous pouvez répondre, enfin, le bénéficiaire peut éventuellement répondre aux prérequis d'une formation. sans avoir le diplôme qui correspond aux prérequis. Et donc là, pour la VAPP, normalement, il est accompagné par l'école dans laquelle il va rentrer. C'est-à-dire, c'est la formation qu'il va faire, qui doit l'accompagner pour valider sa VAPP, pour valider son prérequis. Je ne sais pas si les CEP accompagnent la VAPP, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Et la VAPP.
J'avais un, je dis juste une histoire que je raconte
Ouais.
souvent. J'ai animé un club d'entreprise où il y avait beaucoup de gens qui étaient autodidactes. En fait, la moitié des j'étais très étonné d'ailleurs, la moitié des dirigeants d'entreprise qui avaient plutôt réussi d'ailleurs, étaient autodidactes. Et il y en avait un qui s'amusait à dire, moi, j'ai bac plus 25. Et c'est vrai, il avait
Oui.
appris tellement dans dans son métier qu'il avait.
Mais c'est
Voilà.
ça. Et vraiment, les personnes se freinent pas. Alors, cette histoire de VAPP, elle est surtout vraie pour les formations universitaires. Parce que dans les écoles privées, en fait, même s'il y a un prérequis bac plus 2, par exemple, et que vous n'avez qu'un bac, l'école va vous recevoir en entretien, va vous faire passer deux, trois tests et peut très bien décider que vous accédez quand même à la formation, même si vous n'avez pas le prérequis. Voilà, c'est la VAPP, elle va être nécessaire pour les formations plus universitaires, voilà, qui vont être on est obligé de rentrer dans les rails, voilà, très. Mais par exemple, vous voulez faire une licence. Bah par exemple, enfin, le diplôme de coach. Enfin, moi, en tout cas, moi, quand je l'ai fait dans l'école que j'ai faite, il y avait un prérequis qui était d'avoir un bac plus 4 minimum pour faire le diplôme de coach. J'avais dans ma promo une femme qui n'avait qu'un bac plus 2, mais son expérience était tellement riche que l'école avait dit bah, c'est bon, vous pouvez
Bien
intégrer la
d'accord.
formation, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc,
Ouais, il y a tout. Ouais.
faut pas qu'il s'arrête à tout ça, en fait. Tout ce qui paraît des obstacles peut être surmonté, en fait. Voilà.
Il me semble qu'il y a, alors, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais pour m'être renseignée sur Angers, par exemple, accéder à une licence de psychologie avec une VAPP, ce n'est pas possible.
Ah bah,
Voilà.
il faut que ça soit des formations professionnelles.
Oui, c'est ça. Il y a certaines licences, enfin certaines matières en tout cas, où il
Par
faut
exemple,
absolument faire le cursus.
il faut une licence pro. Effectivement, là, ça marche pas.
Oui.
Par exemple, vous n'intégrerez jamais une licence de droit avec une VAPP, hein, ça c'est sûr.
Oui. Oui.
Voilà, il y a quand même des. Ou de médecine,
Oui,
heureusement, cela dit. Hein. Heureusement.
c'est peut-être bien quand
Il y a
même.
quand même quelques petits garde-fous pour pas faire n'importe
Commencez
quoi.
par le début.
Voilà. Bon, bah, j'ai fait une VAPP, j'ai fait qu'une année de médecine. J'ai fait VAPP bac plus 5, bac plus 6, et voilà. Et puis maintenant, je suis médecin.
C'est pas tout à fait ça.
Non. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne ou qu'on échange à nouveau? Frédéric, c'était pas trop. Parce que du coup, tu n'as pas été formé encore sur trajectoire. Frédéric, comment ça?
Ouais.
Comment
Ah
tu as
non, non, mais
vécu?
au contraire. Enfin, je sais pas si c'est au contraire, mais en tout cas, je me dis que pour aborder la formation des 2 jours lundi mardi,
Ouais.
eh bien, je me sens déjà plus dans le bain.
Oui, c'est vrai.
Mmh.
T'es rentré
Ouais.
par le milieu du bilan, là. En fait, je t'ai jeté dans la piscine du milieu, là. Voilà.
Ouais, c'est ça. Mais ça m'a bien plu. Et puis, d'un certain côté, je me dis, mon Dieu, tout ce qu'il y a à savoir que je ne sais pas.
Oui.
Et d'un autre côté, ce que tu as dit tout à l'heure qui est dédramatisant, c'est qu'on ne peut pas tout savoir.
Non.
Mais par contre, ça m'a donné envie d'entrer en contact avec d'autres professionnels que je ne côtoie pas dans mon
Oui.
métier, ni BNI, ni yoga. Et ça m'intéresse beaucoup, en fait. Enfin, je me suis notée d'aller voir qui existait sur mon territoire, là, et puis de voir comment j'allais les approcher. Mais ça, je trouve ça super, en fait.
Bah
Alors,
ça,
et il se
oui.
trouve,
J'ai déjà rencontré quelqu'un du CLPS, enfin, j'ai déjà une personne amie qui travaille au CLPS. Et là, lors de l'inauguration, le lancement d'un nouveau réseau pour les alternants, oui, justement, qui s'appelle Alternafaire, un jeune de Fougères qui a
C'est
lancé
chouette
ce réseau-là,
ça. C'est vachement une bonne
c'est
idée ça.
génial. Oh, alors, il est venu à BNI, il est venu plusieurs fois parce qu'il est alternant chez PH+,
Ah oui, ok.
entreprise de nettoyage
Ouais,
propreté
oui.
de Saint-Aubin. Et eux, ils sont dans le groupe BNI, donc il a été suppléant du membre de PH Group. Et ça a dû lui donner des idées pour un réseau entre alternants.
Ah, c'est
Donc on
super.
était, bah ouais, c'est vraiment génial. Quand il est venu 8 jours avant le lancement et qu'il a annoncé ça, je lui ai dit, mais c'est vraiment formidable parce que les jeunes n'ont pas assez ce réflexe du réseautage, du networking. Et plus on l'a tôt, mieux c'est. Parce que le réseau, on peut le créer. Et on l'a surtout. On l'a, mais on n'en a pas conscience, en fait. On a un réseau.
C'est chouette.
Donc, j'étais à ce lancement et j'ai croisé une ancienne élève de yoga qui travaille, elle aussi, au CLPS et qui a fait du bilan de compétences pendant 4 ans. Et maintenant, elle est plutôt dans la partie recrutement. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on garde le contact. Et elle m'a renvoyé un petit message en me disant, bah, par rapport à ta nouvelle activité, c'est intéressant qu'on reste en contact. Donc, je vais rentrer, je pense, par cette porte-là. Et ouais, je trouve ça hyper riche en fait de potentialités, de possibilités de nouvelles rencontres et d'un nouveau réseau. Ça plaît beaucoup.
Merci. Tu avais une question, Muriel? Une
Oui,
remarque?
j'avais une question parce qu'en fait, je voulais la poser à Audrey, mais elle est partie. Mais peut-être que voilà, collectivement, vous pouvez me, en tout cas, partager ma réflexion. Mais en allant voir, par exemple, moi, je regardais sur Angers, on a Catalyse et Talent Solutions Tingari, qui est une société où sont les références EEP. Mais ces sociétés, ou Catalyse, en tout cas, font des bilans de
Ah,
compétences.
faut pas aller les voir, ça sert à rien.
Donc, et même, je pense Tingari, parce que je les ai croisés, bah, je crois que c'est au RED. Parce que, voilà, pour avoir été invité au réseau réseautage en direct de Angers, ils font aussi des bilans. Donc,
Bah oui. Non, non, c'est
ils n'ont
intéressant.
pas le
Toujours ma
droit, hein.
question, comment ils peuvent être CEP et faire en même temps des
Ils n'ont pas
bilans?
le droit.
Pas le
Attends,
droit.
les
Enfin, pas les
CEP n'ont
mêmes.
pas. Quand une personne va voir un CEP pour voir un CEP et que le CEP lui dit, ben, vous pouvez faire un bilan de compétences, mais vous n'avez pas le droit. Maintenant que vous êtes venu nous voir, vous n'avez plus le droit de le faire chez nous.
Heureusement.
Et c'est là qu'il faut aller voir des CEP, parce que donc, eux savent ce que c'est qu'un bilan de compétences, et donc c'est intéressant de présenter le bilan de compétences avec toute la richesse que notre méthode contient.
Oui, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas s'auto-prescrire, hein, on est bien d'accord.
Non, ils n'ont pas le droit.
Allez voir si vous avez l'occasion de prendre des rendez-vous avec les CEP APEC. C'est des très bons prescripteurs, l'APEC.
Oui, ben, je vois par exemple là sur Le Mans, en fait, oui, il n'y en a pas sur Angers, on passe tout de suite au Mans. Bon, là, ils sont répartis le territoire comme ça, mais.
Mais vous
Ok.
pouvez avoir des rendez-vous téléphoniques, visio, ou
Ouais, ouais,
faites-vous
ouais.
connaître sur votre territoire, en fait. Hein, c'est des bons prescripteurs,
Ouais.
l'APEC.
Tout à fait.
Normalement, ils n'ont pas le droit de prescrire. La vérité, c'est que là, j'en ai encore eu un cette semaine qui vient de l'APEC de Rennes. En fait, voilà, quand la personne insiste, ah, mais ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est donner un seul nom.
Voilà,
Ils
ils
en
ont le droit
donnent.
d'en donner trois.
Voilà, ils en donnent plusieurs.
Mais c'était pareil à la Chambre de commerce, on n'avait pas le droit de donner les noms des bons coups, mais des bons comptables ou des bons avocats, mais bon, on en
Oui, mais
donnait
c'est ça.
trois
On
ou
sait
on
que ça
donnait
se fait
toute
hein,
la
dans les
liste.
réseaux, oui. C'est ça. Donc, plus vous allez vous faire connaître, ben, plus on va parler de vous et plus on donnera votre nom. Et voilà. Et là, c'est là où c'est la toile d'araignée qui se met en place. Et voilà, quoi. OK.
Super.
Ça vous va si on s'arrête là? Ouais, super.
Parfait, merci
Merci
beaucoup.
beaucoup. Bonne fin de semaine à tout le monde. Frédéric, on se voit lundi. En forme, parce que tu vas en avoir plein la tête. Hein? Et
Je vais
puis,
me vider la tête ce week-end, en
voilà, c'est ça.
fait. Qu'elle soit
Et
libre.
puis, aux autres, belle fin de semaine. Et puis, à bientôt. On reste en contact. Et puis là, on va vous préparer un peu le menu de notre journée de séminaire, là, le 30 août. On vous en dira un peu plus sur où, qu'est-ce qu'on fait, comment. Voilà. On viendra vers vous rapidement. OK?
Super. Merci beaucoup.
Allez, bonne
Merci. Au
fin de
revoir à
journée
tous.
tout le monde.
Merci à
Bye.
tous.
Merci, à
Au
bientôt.
revoir.
Ah oui, il faut que j'arrête l'enregistrement d'abord.